On va poursuivre ce thème qui s'est imposé à la fin de ce moment de louange et de prière, puisque donc ce matin nous allons développer le thème que nous avons regardé rapidement ensemble mercredi soir dans la réunion de prière. Donc on va lire ensemble ce matin le même passage que mercredi, donc dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, les versets 14 jusqu'au verset 22. Alors ce matin, nous avons exprimé par nos louanges que le Seigneur est le Dieu éternel, qu'il est celui qui était, qui est, qui vient. Cette nature éternelle de Dieu qui ne change pas, qui est toujours le « je suis ». Et justement, c'est comme ça que ce Dieu nous répond lorsque nous élevons nos voix, nos cœurs vers lui. C'est comme ça qu'il nous parle. Parce que Jésus avait dit une fois aux pharisiens, « Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il est aussi notre Dieu. Il est ce Dieu vivant qui est toujours là et qui se manifeste dans nos vies. Et qui aujourd'hui encore nous lance cet appel, « Toi, suis-moi. » Donc Jean chapitre 21 verset 14, c'était donc déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Et après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci ?» Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » J'espère que ce matin, si le Seigneur nous adressait cette parole, « M'aimes-tu ?» on pourrait lui répondre « Oui » sans hésitation. Ce que nous opère un petit peu dans le français, c'est que dans le grec, il y a différents termes pour « aimer » qui sont plus ou moins forts. Et Pierre était attristé de ce que la troisième fois, Jésus baisse le niveau, puisque jusque-là, Pierre n'avait pas pu répondre de tout cœur, sans condition, « Je t'aime ». Et donc, le Seigneur était venu jusqu'à son niveau. Que nous puissions répondre sans hésitation et à la demande « M'aimes-tu ?» Et à la demande, alors, si tu m'aimes, suis-moi. l'appel à suivre Jésus, ce qui est assez logique, si Jésus est le Dieu de l'éternité, si Jésus est le roi des rois, si Jésus est celui qui était, qui est et qui vient, c'est assez logique de répondre positivement à cet appel de le suivre. Bah, cet appel dans la Bible était toujours le point de départ pour les disciples. Dans Marc chapitre 1, verset 16, nous lisons que Jésus passait le long de la mer de Galilée et il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. C'est donc souvent le point de départ, Matthieu 9, verset 9 également. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Jésus a dû créer de sacrés bouchons ce jour-là. S'il a pris celui qui est assis au péage et lui a dit de le suivre et de laisser tout derrière lui. Mais donc, Jésus toujours appelait les gens à le suivre. Et on a vu mercredi soir que dans l'évangile de Jean, cet appel à suivre Jésus, en quelque sorte, encadre l'appel d'un disciple. Parce que, donc, dans Jean, c'est le premier mot que Jésus adresse à ses disciples. Jean 1, verset 40, « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean-Baptiste et qui avait suivi Jésus. » Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Le début donc, du ministère d'un disciple, de la vie d'un disciple. On a lu ici les derniers mots de Jésus à ses disciples dans le chapitre 21. Toi, suis-moi. Ça encadre donc toute la vie d'un disciple, du début jusqu'à la fin. C'est la nature même d'une vie de disciple, de suivre Jésus. Si donc nous sommes chrétiens, tous ceux parmi nous qui avons répondu à l'appel que le Seigneur a mis sur nos vies, que le Seigneur a adressé à nos cœurs, c'est à cet appel de suivre que nous avons répondu. Matthieu chapitre 28, verset 19, nous montre que cet appel, c'est le ministère de l'Église. Que le message que nous sommes appelés à transmettre de génération en génération n'est autre chose que ce message que Jésus a adressé au départ à ses disciples. Suivez-moi. Suivons Jésus. Ministère de l'Église, Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et un disciple suit son maître. Nous sommes donc appelés à répandre cet appel. Suivons Jésus et nous avons répondu à cet appel de la part du Seigneur. Suivez-moi. C'est un rappel important parce que si on se rappelle que nous avons répondu à l'appel de suivre Jésus, cela va définir notre approche de la vie chrétienne. On doit se rappeler que on n'a pas été appelé juste à devenir une meilleure version de nous-mêmes, ou juste de bien profiter de la vie, ou de trouver la solution instantanée à tous nos problèmes, toutes nos difficultés. L'appel auquel nous avons répondu, c'est l'appel de suivre Jésus. Il y a un aspect de cette réponse de la vie de disciple de suivre Jésus qui consiste à le reconnaître comme notre Rédempteur, le reconnaître comme le seul moyen de venir au Père, comme il avait dit donc en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus donc nous appelle à le suivre dans la présence du Père, jusqu'au Père. « Si vous me connaissiez, dit-il, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Nous reconnaissons Jésus comme Rédempteur, comme seul moyen de venir à notre Père. Et puis, si on le suit, ben, on reste fidèle à cette vision-là, à cette révélation de Jésus jusqu'au bout de notre vie. On garde Jésus, on garde Dieu, le Dieu éternel à qui nous venons par Jésus-Christ, comme seul objet de notre adoration tout au long de notre vie. Ça fait partie de suivre Jésus. Paul pouvait dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Et il va lui dire dans le chapitre suivant, « J'ai fait cela, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc une partie de suivre Jésus-Christ, c'est de le reconnaître comme seul moyen d'arriver au seul Dieu éternel, au Père, tout au long de notre vie. Mais il y a aussi d'autres aspects bien concrets par lesquels nous répondons à cet appel de suivre le Seigneur tout au long de notre vie, à côté du fait simplement de garder le Seigneur comme notre seul Dieu. Ou plutôt qui peut être définit et réalise cette reconnaissance du seul vrai Dieu et de Jésus qui nous fait entrer dans sa présence. Et donc, on va regarder ce matin trois applications concrètes de cette suivi de Jésus dans notre vie de disciple. D'abord, on suit le Seigneur dans ses projets pour notre vie. Suivez-moi sur le chemin que je trace pour vous. Jérémie 29, 11, beaucoup d'entre nous le connaissent par cœur, où le Seigneur dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » On suit le Seigneur dans ses projets, qui sont certes projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, mais qui nous conduisent par les chemins qui vont nous permettre, si on suit le Seigneur dans ses projets, de connaître ce qui est pour notre bien spirituel, notre bien éternel, qui ne va pas toujours être confortable, qui ne va pas toujours être facile, qui ne va pas toujours être une vie tranquille. Alors je sais que souvent, les gens disent que si on suit le Seigneur dans ses projets, on a la paix. Alors c'est vrai qu'au plus profond de nous-mêmes, il y a cette paix qui vient de suivre le Seigneur. Cela dit, même quand on lit le témoignage de l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans le quotidien, suivre le Seigneur, même s'il nous donne cette paix fondamentale qui dit « bon, ben, je sais que le Seigneur est en contrôle », cela ne veut pas dire que ça ne fait pas peur, qu'on est toujours tranquille, qu'on est toujours heureux et qu'il n'y a jamais de crainte ni de risque. Suivre le Seigneur va souvent nous mettre à l'épreuve. Mais nous pouvons avoir cette paix qui vient de savoir que le Seigneur est en contrôle. Et je sais que ce chemin me conduit vers le Seigneur. Mais devenir disciple de Jésus-Christ, répondre à cet appel, suis-moi. Accepter la rédemption qui est en Jésus-Christ, le mot rédemption qui parle d'être racheté par Jésus-Christ, implique qu'on donne au Seigneur la liberté de faire ce que lui, il veut de notre vie. Seigneur, j'accepte de mettre de côté mes projets, mes désirs, mes espoirs, parce que je sais que ma vie ne m'appartient plus, ma vie t'appartient à toi. Et donc c'est à toi de définir ce que je vais faire avec ma vie. Je dois venir à toi chercher ton chemin, tes projets, et puis avoir la foi de te suivre dans ce que tu désires pour moi. Je mets les dons que tu m'as donnés à ta disposition, non pas pour en faire ce que moi je veux, mais pour en faire ce que toi tu voudrais. Ça vaut dans un aspect personnalisé où Dieu fait des projets et trace des chemins pour chacun d'entre nous, mais ça vaut aussi dans les termes généraux, simplement dans le fait d'être un disciple de Jésus-Christ, d'être un chrétien. Il y a un chemin que tous nous devons emprunter si nous sommes disciples de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. » Ce qui veut dire que donc, un des aspects du chemin par lequel le Seigneur veut nous conduire, c'est dans la transformation de notre nature pour que nous devenions de plus en plus comme Jésus-Christ. Pour que justement, nous suivions le Seigneur Jésus, pour que lui soit le premier-né de plusieurs frères et qu'il y ait cette ressemblance familiale entre nous et Jésus. Il veut développer cela en nous, et si nous, nous répondons favorablement à cet appel « Suis-moi », on dit « Bon, bah, d'accord Seigneur, je te suis dans le chemin qui va me transformer à l'image de ton Fils. » Généralement, une transformation ne laisse pas les choses telles qu'elles. Transformer quelque chose ne le laisse pas dans une position tranquille, mais où vraiment il y a des choses qui doivent changer, il y a des modifications qui doivent être apportées. Et donc répondre oui à cet appel, suis-moi, implique l'acceptation que le Seigneur nous travaille pour que nous devenions ce que lui, il voudrait qu'on soit. Parce que donc, deuxième aspect de cette réponse à l'appel « Suis-moi », c'est une acceptation de suivre son exemple. De dire « C'est toi le maître ». Un disciple d'ailleurs reconnaît son maître et le suit dans son enseignement, mais aussi dans sa vie personnelle. C'est pour cela qu'il nous est tellement important d'étudier la personne de Jésus-Christ, de méditer la personne de Jésus-Christ, de connaître qui est Jésus, non pas d'avoir juste une idée vague de quelques bribes d'histoire qu'on a peut-être entendues dans notre enfance, ou de quelques images générales que les gens se font de Jésus, mais de voir qui était Jésus, parce que Dieu désire que nous devenions des copies de Jésus-Christ, que nous ressemblions à Jésus, que lui puisse être le premier de plusieurs frères avec cette ressemblance entre nous. Tout à l'heure, dans le temps de prière, nous avons entendu des citations de Philippiens chapitre 2 qui parlaient de Jésus, du fait que Jésus est n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est important de connaître ces choses et de les méditer. Pourquoi ? À cause du verset qui précède ces versets-là. Dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, etc. » Si Paul a écrit ces mots que nous connaissons bien au sujet de Jésus-Christ, il a dépeint le caractère de Jésus et l'humiliation et l'obéissance de Jésus devant le Père. Ce n'était pas juste pour nous montrer à quel point Jésus est merveilleux. Il parlait de cette nature merveilleuse de Jésus parce qu'il disait « il faut le connaître parce que il faut que cette nature soit reproduite dans votre vie ». L'objectif de Dieu, c'est que vous soyez comme Jésus-Christ, qui s'est humilié, qui a accepté de suivre les voies de son Père jusqu'au bout pour accomplir les projets de son Père. Et si je vous en parle, c'est pour que vous, vous ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois, quand on oublie que nous avons répondu à cet appel à être disciples, cet appel à suivre le Seigneur, parfois nous avons tendance à inverser les rôles. Notre chair est toujours très contente d'inverser les rôles dans la relation entre Dieu et nous. Et donc, on arrive au point où, au lieu de suivre le Seigneur dans les chemins que lui, il a tracés, nous, nous présentons à Dieu nos rêves en disant, ben Seigneur, maintenant c'est à toi de réaliser mon rêve. Qui est tout le contraire de dire, ben Seigneur, je te suis dans la voie que tu as tracée pour moi.
Amen.
Mon désir, c'est de faire ta volonté. Mon désir, c'est que ton plan se réalise dans ma vie. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, n'a pas dit au Père, alors Seigneur, que ma volonté se fasse, que mon rêve se réalise. Et il a dit, Seigneur, je voici ce que moi j'aimerais, mais en fin de compte, que ta volonté soit faite et non la mienne. Être disciple de Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, implique également être prêt à accepter ce défi-là, de dire avec Jésus, finalement, Seigneur, je suis prêt à ce que non pas ma volonté soit faite, mais la tienne. C'est logique quand on réfléchit à ce qu'est un disciple. En Luc, chapitre 6, verset 40, Jésus dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Si nous acceptons cet appel à le suivre, à être ses disciples, on reconnaît que c'est lui le maître. Et moi, je suis disciple de mon maître. Le disciple n'est pas plus que le maître. Ce n'est pas à moi d'inverser ses rôles, c'est à moi d'accepter cet appel. Toi, suis-moi. Non pas, Seigneur, suis-moi dans mes projets. C'est à moi de le suivre, c'est à nous de suivre notre maître. Pierre, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 21, parle de Christ qui vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Suis-moi. Suis mes traces. Faites comme moi j'ai fait. D'ailleurs, qu'est-ce que l'apôtre Paul disait souvent aux chrétiens des églises qu'il avait fondées? Suivez mon exemple. Suivez ce que vous avez vu en moi, comme moi-même, je suis l'exemple de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, suivre le maître, être disciple, veut dire suivre son exemple et aussi suivre son enseignement. Ça veut dire accepter que son enseignement est juste, ou que son enseignement, en tout cas, c'est ce que nous voulons pour notre vie, et puis la mettre en pratique. Si vous voulez avoir une acceptation de son enseignement qui est tout à fait pratique. Parce que dans la Bible nous dit bien, c'est facile de dire que c'est ainsi, mais si on veut dire « Oui Seigneur, je crois que ton enseignement pour moi est la vérité, en tout cas c'est la vérité que j'accepte pour ma vie », il dit « Comment est-ce qu'on va le savoir ?» Ou fondamentalement. Vous pouvez le dire et puis faire autrement, ça voudrait dire qu'au fond, vous ne l'avez pas accepté. Il dit, c'est lorsque vous mettez en pratique ce que vous avez dit accepter qu'on verra que réellement vous êtes prêt à le suivre. Donc, ce nom de chrétien n'est pas juste une étiquette que je porte tout en vivant ma vie à moi. En disant, je fais ce que je veux, mais je suis chrétien. Je fais ce que je veux, mais le dimanche matin, je vais à l'église. Je fais ce que je veux, mais bon, de temps en temps, lorsque je suis dans des galères, je prie. Ou je fais ce que je veux, et puis à côté, je lis ma Bible, même si il n'y a pas de corrélation importante entre les deux. Parfois, on parle de l'avis de l'Église sur telle ou telle question. Où on parle de ce que pensent les chrétiens sur tel ou tel sujet. Finalement, ces deux points-là sont sans la moindre importance, sans le moindre intérêt. On n'a rien à faire, fondamentalement, de la position de l'Église sur telle ou telle question, ou de ce que pensent les chrétiens sur telle ou telle question. La question importante, c'est qu'est-ce que le Seigneur pense de telle ou telle chose? Que dit le Seigneur de telle chose? Parce que finalement, nous sommes censés être ses disciples. On n'est pas appelé à dire « moi, en tant que chrétien, je pense que… » On est appelé à dire « Voici la parole du Seigneur. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu conclut sur telle question. » Je vous ai parlé, certains l'ont déjà entendu, lorsque nous étions en Angleterre, on a parlé avec des amis pasteurs avec qui on a fait l'école biblique, qui parlaient avec un couple dans leur église qui malheureusement... il y avait deux familles qui se sont brisées parce qu'il y avait un couple qui s'est créé entre deux moitiés de couples dans l'église. Et lorsque donc, ce couple pastoral est allé les confronter avec la parole de Dieu, la réponse c'était de dire « mais nous on est convaincus que Dieu est cool avec ça, il n'y a pas de souci ». Parce que d'ailleurs, même on prie ensemble avant de coucher ensemble. Donc il n'y a pas de problème devant le Seigneur. Moi, en tant que chrétien, je peux faire dire à Dieu tout ce que je veux, tout ce que veut ma chair. Et je peux me convaincre et chercher à convaincre des autres que c'est ce que pense Dieu. Donc ce couple leur ramenait à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Notre question n'est pas « qu'est-ce que moi je veux faire en tant que chrétien ?» C'est « qu'est-ce que Dieu me dit que je dois faire en tant que chrétien ?» Qu'est-ce que Dieu me dit est juste si je suis son disciple ? Qu'est-ce que Dieu me dit comme chemin que je dois suivre ? Parfois ça plaira à ma chair. Parfois ça ne plaira pas à ma chair. Mais telle n'est pas la question. Si ça me plaît aussi, mais ça ne me plaît pas, c'est le chemin sur lequel le Seigneur m'appelle à le suivre. Et si je veux répondre à cet appel, suis-moi, je m'engage à le suivre dans ce que lui, il me dit, et non pas ce que ma chair peut me dire. Jésus d'ailleurs explique à quoi cela ressemble de le suivre, pour qu'il n'y ait aucune doute, pour qu'on ne puisse pas dire « Ah ben, j'avais pas compris que c'était ça ». Luc 9, verset 23, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre, alors qu'il soit prêt à renoncer à lui-même. » Ça veut dire renoncer à ce qui lui fait plaisir, à ce que sa chair a envie de faire. Lorsque Jésus parle ici de prendre chaque jour sa croix, il n'est pas forcément question de devoir subir le martyre, ni de mortification physique de notre corps physique, mais il dit que chacun, chaque jour, se charge de sa croix. Ça veut dire que chacun meurt chaque jour à lui-même, en acceptant, ce n'est pas à moi de définir ce que je vais faire de ma vie. Ce n'est pas à moi de définir ce que je considère être juste. C'est à Dieu de le définir et c'est à moi de le suivre. Si pour cela je dois mettre à mort ma chair qui désire autre chose que la volonté de Dieu, ainsi soit-il. C'est le prix que j'ai accepté de payer. Si mon cœur a envie de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, à moi de mettre à mort ce qui en moi voulait autre chose que ce que le Seigneur me dit être juste. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul explique aux chrétiens dans Romains chapitre 6, au début de ce chapitre, lorsqu'il parle du baptême. Il leur dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Et un peu plus loin dans le même chapitre, il va conclure, « Donc, que le péché ne règne plus sur votre vie, sur votre corps mortel. » Il dit, si vous avez accepté de suivre le Seigneur en vous faisant baptiser, vous avez accepté de mettre à mort vos propres désirs, vos propres envies, votre propre nature, vos propres plans, vos propres rêves, vos propres projets. Et vous avez accepté de suivre le Seigneur sur le chemin que lui, il a préparé pour vous. Vous avez accepté de devenir disciple de Jésus-Christ. La Bible me dit que même en tant que chrétien, il n'y a rien d'aussi tordu que mon cœur. C'est pour ça que je ne peux pas faire confiance à mon cœur et suivre mon cœur. L'appel du Seigneur n'est pas « Suis ce qui te semble juste. » Parce que le livre des Proverbes m'a dit « Il y a une voie qui semble juste à l'homme. Son issue, c'est la mort. » La Bible me dit « Il n'y a rien d'aussi tordu que le cœur humain. » Je suis appelé à suivre non pas ce que je trouve en moi-même, mais ce que je vois dans le Seigneur et ce que j'entends du Seigneur. L'appel auquel j'ai répondu n'est pas l'appel de me faire plaisir. L'appel auquel j'ai répondu, c'est l'appel de lui faire plaisir en accomplissant son projet, sa volonté. On a vu donc que l'appel qui traverse les générations, l'appel du Seigneur à l'Église et que l'Église doit encore communiquer aux autres, c'est « toi, suis-moi, deviens mon disciple. Ce matin encore, il se peut que le Seigneur appelle l'un ou l'autre en disant, toi, suis-moi, deviens mon disciple, accepte d'être mon disciple. Alors le Seigneur n'a jamais essayé de tromper qui que ce soit sur la marchandise en faisant croire que c'était autre chose que ce que l'était. On a vu la définition de Jésus, mais il dit, si malgré cela, tu veux me suivre, alors toi suis-moi. Et il y aura des richesses inestimables que vous découvrirez par la foi, en me faisant confiance. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a jamais entendu. Il n'est jamais entré dans l'esprit de l'être humain les choses que Dieu a promis à ceux qui sont prêts à être ses disciples, à ceux qui sont prêts à le suivre. Mais il dit, ne venez pas si c'est simplement que vous voulez vivre votre propre vie tout en ayant votre carte de membre pour après vous présenter le moment où je viens en disant, oh ben Seigneur, regarde, j'ai ma carte. Et alors, il y en a à côté qui ont dit, Seigneur, Seigneur, nous avons accompli des miracles en ton nom. Et à qui j'ai dit, ah, mais alors, je ne t'ai jamais connu. On a chanté tout à l'heure, il est celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur nous met en garde dans ses évangiles en disant, vous ne savez pas quand ce sera que je reviens. Il faut être prêt. Il faut être engagé sur ce chemin que moi j'ai tracé. Si donc le Seigneur vous appelle ce matin en disant, mais toi, suis-moi, je t'encourage à le faire. Il suffit de dire, ben, Seigneur, j'accepte d'être ton disciple. Je reconnais que mon seul espoir d'entrer dans la présence de Dieu le Père, d'entrer dans la présence du Dieu éternel, c'est de te suivre. Si, comme beaucoup d'entre nous, vous avez déjà pris cette décision, vous avez accepté d'être disciple de Jésus-Christ, reconnaissons encore aujourd'hui ce que cela implique d'être disciple de Jésus-Christ. Disons à nouveau, Seigneur, je te remercie de ce que toi tu es mort pour moi. Je te remercie de ce que toi tu m'offres la possibilité de connaître le Père. Je te remercie de ce que toi tu as tout donné, tu as obéi jusqu'au bout des projets de ton Père pour que moi je puisse avoir la vie éternelle. Et donc Seigneur, j'accepte d'être ton disciple. Peut-être ça ne plaira pas tous les jours à ma chair, mais tant pis. Moi, ce que je veux, c'est être ton disciple. Moi, ce que je veux, c'est te suivre parce que je te fais confiance. Je sais que je peux te faire confiance dans les chemins que tu as préparés pour moi. Aujourd'hui donc, est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Lui, son appel n'a pas changé. Toi, suis-moi. Facile à dire, Seigneur, oui, je te fais confiance. Mais qu'à partir du jour où tu reviens, je fais confiance pour toutes les promesses éternelles. Mais bon, entre deux, je ne suis pas sûr, donc je préfère gouverner les choses moi-même. Toi, suis-moi. Si nous lui faisons confiance, suivons-le.